Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est un texte avec lequel on est familier et c'est un texte qui oppose le voleur et celui qui dit « et moi », qui se présente comme étant finalement le bon berger. Ce que la Bible révèle, c'est qu'il est donc possible pour des hommes de perdre des choses. Quand vous lirez les Saintes Écritures ou quand vous lisez les Saintes Écritures de Genèse à Apocalypse, vous vous rendez compte que c'est possible que Dieu ait prévu quelque chose pour quelqu'un, mais que cette prophétie reste sans accomplissement dans la vie de cette personne. Le livre d'Hébreux raconte qu'il y a des gens qui saluent ou qui ont salué les promesses de loi. Ça veut dire que les promesses ont été faites, mais ils sont morts avant que les promesses ne s'accomplissent. Et l'écrivain aux Hébreux semble révéler que si ces gens-là n'ont pas pu vivre de leur temps l'accomplissement des promesses, en réalité, c'était pour ceux qui devaient venir après eux, donc nous. Ça veut donc dire qu'il y a des choses que Dieu garde secrètes, cachées, dans la vie d'un individu, jusqu'à ce que les personnes pour lesquelles finalement ces choses ont été déclarées s'accomplissent. Avant de vous parler ce matin, je veux que vous réalisiez qu'il y a des promesses que Dieu fait à un homme, parfois qu'il n'accomplit qu'à ses enfants. Dieu parle à Abraham, A-B-R-A-M, et lui dit « Quitte ton pays, ta patrie, pour un pays, bon, la maison de ton père, pour un pays que je te montrerai. » Plus tard, il lui dit « Je ferai de toi une grande nation, ton nom sera grand. » Mais sauf que Dieu n'accomplit pas ses promesses pour Abraham. La vérité, c'est que Dieu va changer son nom. Et c'est quand il sera Abraham qu'il va avoir deux enfants, Ismaël et Isaac. Donc, quelle que soit la promesse que Dieu vous fait, avant de l'accomplir, Dieu doit vous changer. Donc, Dieu n'accomplit pas la promesse à celui à qui il l'a fait. Vous me suivez ou pas ? Vous devez changer. La prophétie, avant de se réaliser dans votre vie, doit vous emmener à vous modifier, à vous déplacer. Quand on dit si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. En réalité, la prophétie ne s'accomplit pas pour celui qui la reçoit. Il faut que tu changes. Jacob, finalement, tu dois devenir Israël. Okay. Avant que ce que Dieu a dit sur ta vie ne s'accomplisse, tu ne peux pas, tu ne dois pas rester Jacob. Et donc ça veut dire que vous devez accepter que Dieu ne parle jamais. Dieu, quand il vous parle, ne vous parle pas en fonction de qui vous êtes aujourd'hui ou de là où vous vous trouvez aujourd'hui. Dieu vous parle en fonction de qui vous allez devenir et de là où il veut vous emmener. C'est pour ça que la prophétie ne ressemble jamais à la réalité. C'est pour ça que vous ne pouvez pas dire que c'est Dieu qui vous a parlé si ce qu'il vous a dit est en accord avec ce que vous vivez. Okay. Ce n'est pas Dieu qui vous parle si quand vous regardez à ce que Dieu vous dit, il n'y a pas une décadence, il n'y a pas un fossé entre vous et ce que Dieu dit. Dieu appelle quelqu'un qui est stérile, il l'appelle le père d'une multitude de nations. C'est compliqué, c'est bizarre, c'est frustrant. J'étais déjà le père élevé, je m'appelais Abraham. Mais maintenant tu dis je suis le père d'une multitude de nations, sauf que je n'ai pas un seul enfant. Et c'est Eliezer qui est né dans ma maison qui héritera. Mais Dieu dit l'héritage n'est pas pour les serviteurs, l'héritage c'est pour les fils. Donc au final, même s'il est né dans la maison mais qu'il n'est pas sorti de tes entrailles, il n'héritera pas. Ça veut dire que naître dans la maison ne suffit pas, il faut sortir des entrailles. Tu ne peux pas simplement dire que tu es à l'église ou tu appartiens à la vision. Il faut qu'il y ait un lien entre toi et le porteur de vision. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de poser un fondement ce matin en disant quelles que soient les promesses que Dieu a faites, et il a fait des promesses à Cancy, quelles que soient les prophéties que Dieu a libérées sur nous collectivement et nous individuellement, ces promesses demandent qu'on change. Donc j'aimerais que tu m'aides à parler à ton voisin de gauche ou ta voisine de droite. Dis-lui change. Voilà, C'est pas le bon voisin si tu ne le bouscules pas ou elle n'est pas dérangée par ce que tu dis. Cherche quelqu'un à embêter à côté de toi, à déranger à côté de toi, à provoquer à côté de toi. Dis-lui 2025, tu ne dois pas rester la même personne. Tu ne dois pas terminer l'année comme tu l'as commencé. Tu ne dois pas être la même personne qui a vu janvier. La personne qui doit voir décembre ne doit pas être celle qui a vu janvier. Au courant de l'année, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait une modification de l'individu. À libre, à l'onoma, à n'tepa. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de dire à quelqu'un, my God, I heard you. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas possible. Que Dieu nous parle et que Dieu nous laisse exactement les mêmes. Ce n'est pas possible que la parole de Dieu vienne à nous et que nous ne devenions pas autre chose que ce que nous étions avant de l'entendre. Je ne sais pas si vous avez lu le texte où Jésus dit j'avais dit vous êtes des dieux. Il parle du psaume 82 et il dit la parole appelle Dieu ce à qui elle est adressée. Ça veut dire que quand Dieu te parle, Dieu ne descend pas à ton niveau, Dieu veut que tu montes au sien. La parole de Dieu n'a donc pas le projet de te laisser dans l'état dans lequel tu es. La parole de Dieu a le projet de te faire monter au niveau de celui qui t'adresse la parole. Je ne sais pas à qui je parle, mais si quand Dieu te parle, tu n'es pas encore Dieu, c'est que Dieu te voit Dieu. Ah, j'entends Dieu qui parle à Moïse et qui dit je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Qu'est-ce que tu dis évêque? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu crée des ennemis pour que tu te rendes compte que tu es Dieu. Dieu crée de l'adversité pour que tu te rendes compte que tu es Dieu. Dieu permet la maladie pour que toi tu te rendes compte que la maladie ne te tue pas. Que toi tu te rendes compte que l'adversité n'a pas raison de toi. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a tué ta mère ne te tuera pas. Là où les autres ont échoué avant toi, tu n'échoueras pas. Pourquoi? Parce que tu es Dieu. Comment ça? Malébré à l'eau des bas. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il redonnera vie à vos corps mortels. Je ne sais pas qui est possédé du Saint-Esprit comme moi, mais je sais que moi, je ne suis pas un homme ordinaire. Je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. À cause du Dieu qui vit en moi, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Ce qui est difficile pour les autres, ce qui est impossible pour les autres est possible pour moi. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. J'aimerais que tu parles à deux, trois personnes. Dis-leur, dis change. Asseyez-vous, on parle juste. Allez, allez, Sonto Paliada. Ah, c'est pas le bon voisin parce que depuis il dit pas encore amen. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, change. Tu dois changer ton caractère. Tu dois changer ta vision. Tu dois changer ta mentalité. Tu dois changer. Ah. Pour vous parler ce matin, l'homme de Dieu a sorti le terme, le mot sur lequel j'étais dubitatif. Restauration. J'hésitais entre restitution et restauration. Et donc quand il a dit restauration, j'ai compris que Dieu venait de faire le choix. Le thème de mon message ce matin, c'est un oracle, c'est une prophétie. Restauration, deux points, le mystère de la voix prophétique. Alors avant de vous parler de la restauration, pour que vous compreniez, je pense que la plupart d'entre nous, nous avons été exposés d'une manière ou d'une autre à ce terme, au cours de notre vie, ou simplement dans la langue française. On parle de restauration lorsqu'il y a eu destruction au préalable, ou dégâts au préalable. Et lorsqu'on parle de restaurer quelque chose, très souvent on parle de le ramener dans son état initial. Mais pour nous qui sommes spirituels, nous nous rendons compte que la restauration n'a pas le projet de nous ramener simplement dans notre état initial, mais nous ramener plus loin, plus haut. Pendant longtemps, parce que j'ai grandi dans l'église, je me suis converti vraiment très jeune. Bon, moins jeune que lui, mais très jeune. Quand on citait ce verset, les mots qui résonnait dans nos esprits, c'était les âmes. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver les âmes. Vous êtes là? J'ai vu ce verset être mis sur des banderoles d'évangélisation et on m'a dit que Jésus est venu pour chercher et sauver les âmes qui étaient perdues. Malheureusement, pour nous qui avons fait un peu d'école, c'est pas ce que le verset dit. Donc, vraiment, ça va vous déranger. C'est pas grave si après vous m'aimez plus ou vous me lapidez. Mais Jésus n'est pas venu chercher et sauver des âmes. Jésus n'est pas venu te chercher et te sauver. Non. D'ailleurs, c'est écrit devant vos yeux, mais vous n'y avez peut-être pas fait attention. C'est C-E et non C-E-U-X. c'est écrit. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. C'est eux. Vous savez, c'est eux n'est jamais utilisé pour quelqu'un. Toujours utilisé pour une chose. Donc, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver la chose qui était perdue. Ok. Je vais pousser. Le texte dit donc que le déplacement de Jésus sur la terre, c'est comme look and find, chercher et trouver, sauver, c'est eux. Vous êtes là? Donc si Dieu, par Jésus, n'est pas venu nous chercher, n'est pas venu nous sauver, qu'est-ce qu'il est venu chercher et sauver? On nous dit cette chose a été perdue. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous repartez en Genèse, vous vous rendrez compte qu'à aucun moment, ouais, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est vraiment pas dans mes notes, mais c'est pour l'Église. À aucun moment, les hommes se sont perdus. D'ailleurs, quand Adam a péché, la Bible dit qu'il se cachait, il a voulu se cacher loin de la face de l'Éternel. L'Éternel lui a dit, Adam, où es-tu? Okay. Adam a dit, je me suis caché, j'ai eu peur. On perd quelque chose qui se cache n'est pas perdu. Okay. Je me suis caché, j'ai eu peur, parce que j'ai entendu ta voix. Ça veut dire que Adam, en réalité, à aucun moment ne s'est perdu. Il a fait le choix de se déplacer. Vous êtes là? Alors, à un moment, on nous dit, on va les mettre hors du jardin. Donc, on sait clairement qu'ils ne sont plus dans le jardin, donc on sait où ils sont. Donc, ils ne sont pas perdus. On les a mis hors du jardin. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas qu'ils mangent du fruit de l'arbre de la vie. Vous êtes là? Okay. Pourquoi on ne voulait pas qu'ils mangent du fruit de l'arbre de la vie? Parce qu'ayant fait rentrer le péché, on ne voulait pas qu'ils vivent éternellement dans cet état. Qu'est-ce qui a été perdu? Ce qui a été perdu en Genèse, Satan, lorsqu'il rencontre Jésus, le lui propose. Première rencontre dont les Saintes Écritures parlent, l'Esprit emmène Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Les deux premières tentations, si tu es vraiment le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Je sais qui je suis, je n'ai pas besoin de changer les pierres en pain. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, saute. De toute façon, c'est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges pour, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il dit, je suis vraiment le Fils de Dieu. Il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. La troisième tentation est vraiment celle-là qui m'intéresse. Il y regarde tous ses royaumes. Ils sont à moi parce qu'ils m'ont été donnés. Jésus ne dit pas tu mens. Jésus lui dit, parce qu'il lui dit prosterne-toi et adore-moi. Et Jésus lui dit oui, mais il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, à lui seul tu rendras un culte. Écoutez-moi bien, il y a deux choses majeures que vous devez savoir donc sur cet échange entre Satan et Jésus. Premièrement, Satan a raison. L'adoration donne le pouvoir. Jésus ne nie pas ça, il dit, tu as raison sur le principe, mais sauf que l'adoration ne revient qu'à Dieu. Ça veut dire que je comprends le principe de l'adoration, mais on n'adore pas la créature, on adore le créateur. Même quand on veut régner, okay, pour régner, il faut adorer Dieu. Vous êtes là? Mais ce que Satan révèle, c'est qu'il a quelque chose que nous avions, que l'homme avait, c'est cette chose qui a été perdue. C'est pas grave si vous n'aimez plus le culte, mais Dieu n'est pas venu pour t'emmener au ciel. Jésus n'est pas venu pour t'emmener au ciel. Écoutez, ça n'a pas de sens. Si on parle de restauration et qu'on indique que Dieu doit nous ramener dans notre état initial bien plus, je veux que vous réalisiez que l'homme n'est jamais tombé du ciel. La chute de l'homme s'est faite sur la terre. L'homme n'est pas tombé du ciel pour être ramené au ciel. L'homme est tombé de la terre. La position qu'il avait sur la terre était une position de domination. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Donc, qu'est-ce qui a été perdu, évêque? La domination. C'est pour ça que tu as peur des cafards. C'est pour ça que tu as peur des souris. C'est pour ça que tu as peur quand tu vois une facture. C'est pour ça que tu te demandes qu'est-ce qui va se passer parce qu'on parle de myome et de fibrome. C'est pour ça que tu as peur du cancer. C'est pour ça que tu as peur de ne pas enfanter parce que tu as perdu la domination. La domination sur les choses, la domination sur les éléments, la domination sur les esprits. C'est pour ça que tu as peur du diable parce que tu as perdu la domination. Donc quand on parle de restauration, comprends bien qu'au-delà de retrouver un travail, retrouver une maison, je ne vis pas la vie que je devrais vivre. Normalement, moi, je ne devrais pas être malade. D'accord. Normalement, moi, je devrais me marier. D'accord. Normalement, j'aurais dû avoir des enfants. D'accord. Mais sauf que toutes ces choses ne sont que les effets de la cause qui est la perte de la domination. Parce que quand tu domines, quand tu domines, c'est toi qui donnes un nom aux choses. Quand tu domines, c'est toi qui appelles le chien. Quand tu domines, c'est toi qui donnes un nom aux situations et aux circonstances de la vie. Il m'a été dit que pour les Chinois, le mot crise égale le mot opportunité. C'est juste celui qui parle qui détermine comment il l'appelle. Ça veut dire que quand je domine, jamais je n'appelle une crise. Quand je domine, j'appelle une crise une opportunité. Quand je domine, je dis je suis la tête et pas la queue. Quand je domine, la Bible dit que le faible dise je suis fort. Quand je domine, je n'ai pas peur de celui qui vient contre moi. La Bible dit ils viennent contre moi par un chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. Quand je domine, que je traverse les eaux, je ne me noierai pas. Quand je domine, que je passe par le feu ne me consumera pas. Quand je domine. Vous ne pouvez pas me dire que vous croyez en Dieu et au fait qu'il vous ait créé à son image et à sa ressemblance et que depuis que Christ est venu, Christ vous a restauré dans votre position originale et vous ne croyez pas que là où vous êtes, vous devez dominer. La Bible dit tout lieu que foule la plante de ton pied, je te le donnerai en possession. Mon Dieu, mon roi, qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas en France pour être un vagabond. Tu n'es pas en France pour être un sans domicile fixe. Mon problème, ce n'est pas comment tu es arrivé. Mon problème, c'est que tu es arrivé. Si Dieu ne voulait pas que tu domines en France, fallait pas qu'il te place en France. Si Dieu ne voulait pas que tu domines ici, fallait pas qu'il permette que tu arrives là. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un, tu n'es pas dans cette ville pour échouer. Tu n'es pas dans cette famille pour échouer. Mais évêque, je suis né dans une famille où il y a des difficultés, il y a des limites, il y a des complications. Je suis né dans une famille où personne ne se marie. Je suis né dans une famille où les gens ont du mal à enfanter. Je suis né dans une famille où les gens ont du mal à être la tête et pas la queue. C'est exactement pour ça que tu es né dans cette famille. Écoutez-moi bien, et je ne sais pas à qui je parle, mais j'entends Jésus qui dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Oh les Bahas, voici je viens pour faire ta volonté. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis que si tu as un corps, c'est que Dieu a une volonté qu'il veut accomplir. Ah, si Dieu t'a donné un corps, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Mon Dieu, mon roi, en fait, ta famille n'est pas ton plafond, ta famille est ton soubassement. Tu n'es pas né dans cette famille pour être limité par ceux qui les limitent. Tu es né dans cette famille pour que l'on sache que Dieu est capable de prendre un pauvre et de le faire asseoir avec les rois. Tu es né dans cette famille pour que l'on sache que c'est possible que Dieu rentre dans une famille et qu'il modifie la famille par quelqu'un. Tu ne pourras pas régner. Tu ne pourras pas réussir avec la mentalité de victime que tu as. Tu ne pourras pas régner. Tu ne pourras pas dominer avec la mentalité de malade que tu as. Je n'aime pas comment tu parles de ton corps et que tu parles de cette maladie. Ma maladie. Ah, mon diabète. Le diable est un menteur. Ce n'est pas ta maladie. Ce n'est même pas la maladie de Dieu. C'est la maladie de Satan. Le texte de Luc donc révèle que c'est possible que des choses se perdent. Quatre choses que le diable, après lesquelles le diable en a. Quatre choses qu'il essaye de dérober. Quatre choses qu'il essaye de voler. Quatre choses qu'il veut que vous perdiez. Premièrement, alors que je parle de choses, je vais commencer avec le mot chose, les biens. Le diable en a après certains de vos biens. Vous connaissez l'histoire de la femme à la perte de sang? Elle est malade. 12 ans d'hémorragie. 12 ans d'hémorragie. Elle a perdu toute sa fortune parce que l'attaque n'était pas contre sa vie. L'attaque était contre son argent. Il faut que vous compreniez que parfois vous êtes, le diable veut vous rendre malade, pas parce qu'il veut vous tuer, mais parce qu'il veut vous rendre pauvre. Elle a dépensé tout son bien chez les médecins jusqu'à ce qu'elle arrive chez Jésus. Vous me suivez? Quand elle est arrivée chez Jésus, elle a été guérie instantanément. Mais sauf qu'elle n'a pas retrouvé son argent. Quelqu'un m'entend? Jonas est dans un bateau. Pendant que Jonas est dans le bateau, il y a une tempête qui se lève. C'est un esprit qui est derrière, c'est Dieu. C'est une tempête qui se lève. Les gens voyant la tempête et sentant que le bateau a du mal à évoluer à cause de sa cargaison, jettent par-dessus bord la cargaison. Ce n'est que plus tard, lorsqu'ils se rendent que la tempête ne se calme pas, qu'ils interrogent leur divinité et se rendent compte que le vrai problème n'est pas ce qui était en surface, mais ce qui était dans la cale. Jonas. Et donc, à ce moment, on lui demande qu'est-ce qui se passe. Et Jonas explique son histoire. Et Jonas, c'est Jonas lui-même qui leur dit, si vous me jetez par-dessus bord, la tempête se calmera. Ils essayent de résister parce qu'ils ne veulent pas jeter un homme par-dessus bord. Finalement, ils demandent pardon à Jonas et à son Dieu. Ils le jettent par-dessus bord. Un poisson sorti de nulle part avale Jonas, un animal marin. Avale Jonas. Ce poisson, c'est bizarre. Un animal marin avale Jonas. Et finalement, la tempête se calme. Écoutez-moi bien, c'est pour quelqu'un, j'ouvre la parenthèse. Ça veut dire que s'ils avaient identifié très tôt que c'était Jonas qu'il fallait jeter par-dessus bord, ils n'auraient pas perdu leur cargaison. Le diable donc s'organise parfois dans la vie pour te mettre en relation avec quelqu'un qui te fait perdre de l'argent. Depuis que tu l'as rencontré, depuis que vous êtes en relation, tu as des accidents bizarres, tu as des pertes d'argent bizarres. Parce qu'en réalité, toi tu penses que c'est, tu t'attaques aux symptômes, il faut s'attaquer aux causes. La cause c'est cet homme, c'est cette femme, c'est cette relation. La deuxième chose, prenez place, la deuxième chose que le diable veut que vous perdiez et que Dieu doit restaurer, ce sont vos relations. Il faut que vous sachiez que si Jonas est le genre de personne qu'il ne faut pas avoir dans son embarcation, dans son bateau, Paul est le genre de personne qu'il faut garder dans son navire. Quand la tempête se lève, il y a des gens, même quand ils veulent quitter le navire, tu leur dis non, toi, tu ne bouges pas. Écoutez-moi bien, la Bible dit que lorsque Paul, dans le bateau esclave, avec des chaînes, mon Dieu, mon roi, un homme enchaîné va garder, sécuriser la vie de tous les hommes libres. Parce que ce qui fait de toi qui tu es, ce ne sont pas les chaînes ou l'absence de chaînes. Ce qui fait de toi qui tu es, c'est qui est ton Dieu, avec qui tu parles, tu es l'ambassadeur de qui représentes-tu sur la terre. La Bible dit que Paul enchaîné va prier et il va dire, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et il m'a dit, Paul, n'aie pas peur. Il dit, il faut que tu comparaisses devant César. Je m'arrête là et je comprends que Paul ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il a une destination, il a un futur, il a une rencontre qu'il doit faire. Mon Dieu, je ne sais pas à qui je parle. J'essaye de te dire que la raison pour laquelle cet accident ne t'a pas tué, c'est parce que tu as une destination. J'essaye de te dire que la raison pour laquelle cette dépression n'a pas eu raison de toi, c'est parce que tu as une destination. J'essaye de te dire que la raison pour laquelle cette maladie n'a pas eu raison de toi, c'est parce que tu as une destination. Il faut que tu saches que Dieu ne te garde jamais en vie pour tes beaux yeux. Dieu te garde en vie parce qu'il a un projet qu'il veut accomplir avec toi. Quand tu découvres ce projet, tu es immortel. Quand tu découvres ce projet, tu ne peux pas mourir prématurément. La Bible dit donc qu'après ces choses, Dieu dit à Paul, et Dieu a jugé bon de te donner ceux qui naviguent avec toi. Mon Dieu, mon roi, est-ce que je peux vous déranger? Il y a des gens qui restent en vie parce que Dieu les a donnés à un homme. C'est pour ça que j'ai du mal avec certains chrétiens qui disent que leur relation avec Dieu, c'est eux, Dieu et Dieu. Parce que je me dis, mais le jour où on veut te tuer, à qui est-ce que Dieu t'a donné? C'est-à-dire que, quelle est la personne qui devant Dieu peut se tenir devant, entre Dieu et toi pour dire, Seigneur, à cause de moi? Vous me regardez bizarrement, c'est dans vos Bibles. Dieu jure qu'il va tuer les enfants d'Israël, il le fatigue. Il jure. Il dit, Moïse, écarte-toi. Mets-toi de côté, je vais tous les décimer et de toi, je vais sortir une autre nation. Moïse raisonne Dieu. Lui a perdu la tête. Moïse raisonne Dieu. Vous me regardez bizarrement, mais c'est dans vos Bibles. Hey, Moïse raisonne Dieu. C'est dans vos Bibles. Moïse dit à Dieu, hey, Attends, tu as oublié qui tu es. Tu es Dieu. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Même quand on est en colère, on ne fait pas les menaces qu'on fait. Hey, souviens-toi que c'est toi qui les as fait sortir d'Égypte. Attendez. Il dit, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Que tu as pu les faire sortir, mais que tu étais incapable de les emmener à destination? Il dit, faut te calmer un peu, faut pas tuer les gens comme ça. Oh, souviens-toi que tu es Dieu. Je ne sais pas à qui je parle. J'essaye de vous dire que Moïse a raisonné Dieu. Et puis Dieu a dit, et Moïse, comme il voit que Dieu n'écoute pas, Moïse dit à Dieu, si tu fais ça, enlève mon nom de ton livre. Dieu dit, je blaguais. Il dit, je blaguais. Il dit, non, j'enlève pas ton nom. Et puis de toutes les façons, c'est ceux qui ont péché qui vont mourir. Mais sauf qu'il ne les a pas tués. Il a dû attendre 40 ans. Ils sont morts de mort naturelle. Ils sont morts de vieillesse. Vous ne m'entendez pas. Dieu les a fait tourner en rond 40 ans, les gardant le jour et les gardant la nuit. Les nourrissant avec la manne et avec l'eau du rocher. Parce que Moïse avait dit, souviens-toi que tu es Dieu quand même. Quand même, un peu de respect pour toi-même. Satan vient demander les disciples. Satan dit à Jésus, je ne vais pas vous dire ça aujourd'hui, mais Satan dit à Jésus, tu vois tous tes disciples là, ils m'intéressent. Permets-moi de les cribler comme on crible le froment. Et Jésus n'a pas dit non. Ainsi ce que Jésus a dit. Il dit, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Pas pour vous. J'ai prié pour toi. Il dit, afin que ta foi ne défaille point. Il dit, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire que des gens qui ne vont jamais renier Jésus vont devoir attendre que celui qui l'a renié trois fois soit converti. Vous m'entendez ou pas? Jacques n'a jamais renié Jésus. Jean n'a jamais renié Jésus. Il était à la croix quand Jésus a dit, mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Pierre a renié Jésus trois fois et c'est lui qu'on attend. Ne jugez pas les gens trop vite. Ne jugez pas les gens trop vite. Vous ne savez pas qui est qui. Si vous jugez les gens sur leur chute, vous risquez de tuer un apôtre. J'ai trop de choses. Tu sais que les gens disent non, il ne faut pas tomber, il ne faut pas tomber. Et oh, le gars et le frère est tombé, la sœur est tombée. Et est-ce que je peux vous dire, vraiment, désolé, c'est moi, que toutes les chutes ne sont pas pareilles? Il y a un monsieur qui est sur un animal. Il tombe. Il devient aveugle. On l'emmène chez un homme qui prie pour lui. Les écailles tombent de ses yeux. Il est rempli du Saint-Esprit. C'est parce qu'il est tombé qu'il est devenu apôtre. S'il était resté sur sa monture, il serait resté persécuteur de l'Église. Donc il y a des gens, leur chute fait rentrer Dieu en eux. Donc je disais les relations. Faites attention. Le diable veut vous prendre vos relations. Il y a des gens dans la vie, on ne les perd pas. Quand la personne veut partir, tu demandes pardon. Tu vas aller où? Toi et moi. C'est pour la vie. Oh non, vraiment, je ne veux plus. Je vais vouloir pour nous deux. Oh, il n'y a plus l'amour. Il y aura l'amour pour nous deux. Parce que Laban va garder Jacob chez lui pendant plus de 20 ans. Parce que Laban a vu par divination que l'Éternel bénit Laban à cause de Jacob. Ce n'était jamais une histoire de femme. Tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il savait que si le petit là se marie tôt, il prend la femme, il part. La bénédiction quitte la maison. Pourtant, Laban a des divinités. Pourtant, là, c'est pas au moment où Jacob arrive que le business de Laban commence. Sauf que l'arrivée de Jacob chez Laban emmène le business à un autre niveau. J'ouvre la parenthèse pour vous dire qu'il y a des gens qui vous gardent salariés parce qu'ils ont vu ce que vous ne voyez pas en vous. Tu as peur de te lancer pendant que la personne qui t'embauche augmente ton salaire. Elle n'augmente pas ton salaire pour tes beaux yeux. C'est parce qu'elle a perçu que ta présence dans son entreprise garantit le succès de son entreprise. J'essaye. Jacob est resté chez Laban Jacob est resté chez Laban. Laban a changé la femme. Prend Léa, il met à la place de Rachel. 7 ans sont passés. Idaba Adaha. Il remet Rachel. Jacob lui-même dit, je travaille encore 7 ans pour une femme. Ok, c'est ton problème. Donc, 14 ans pour une femme. Finalement, après, il change son salaire 10 fois à la baisse. Parce qu'il ne veut pas qu'il parte. Mais le jour où Jacob met au monde Joseph, le jour où il voit Joseph, Jacob dit, je pars. Vos Bibles disent, voici la postérité de Jacob, Joseph. On ne dit pas Ruben, on ne dit pas Siméon. Pourquoi? Parce que Jacob perçoit que voici l'enfant qui va changer l'histoire de la famille. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Que Dieu t'ouvre les yeux sur ce que tu portes. Que tu saches ce que tu vaux. De telle sorte que personne n'abuse de toi, ne profite de toi. Il y a des relations qu'il faut accepter de laisser partir. Il y en a d'autres qu'il faut garder de toutes ses forces.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.